Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu les interactions, parfois complexes, entre les cultures brésiliennes et françaises. On se base sur des réflexions, des expériences vécues, partagées dans une série d'articles de blagues. L'idée, c'est de décrypter un peu ces dynamiques, surtout dans le monde professionnel, pour mieux comprendre comment ça fonctionne.
Oui, bonjour. Et c'est intéressant, je trouve, de voir ces différences culturelles, non pas comme des murs, mais comme des points de rencontre. Peut-être même des complémentarités, qui sait. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les mécanismes sans jugement aucun.
Alors, un premier thème qui ressort beaucoup, c'est la communication. Les textes opposent assez clairement le style français, souvent qualifié de direct, d'assertif.
Oui, straight to the point, comme on dit parfois.
Voilà. Et en face, une approche brésilienne décrite comme plus indirecte, plus formelle peut-être. On évite le non frontal, on dit plutôt « depende, vamos ver ».
Veja bem.
C'est ça, tout un art d'ailleurs.
L'auteur des textes raconte même qu'à ses débuts, il passait un peu pour un rustre. Il a dû apprendre à, comment dire ?
À mettre les formes, oui, c'est l'expression qu'il emploie. C'est une différence assez fondamentale en fait. D'un côté, en France, on va peut-être valoriser plus le fond, l'objectivité.
Mm-hmm.
Et au Brésil, c'est la forme, le maintien de la relation qui prime, souvent.
Il y a cette anecdote assez parlante des deux collègues français qui ont une discussion animée, disons.
Ah oui, où le ton monte, mais viril mais correct, comme dit l'auteur.
Exactement. Et juste après, ils sortent bras dessus, bras dessous. Et les collègues brésiliens sont là, perplexes. Ils disent « on n'a rien compris ». C'est ça. Parce que pour eux, une discussion aussi vive, ça ressemble à une dispute.
C'est ça. Discuter peut vouloir dire se disputer.
Donc on voit bien le potentiel de malentendu, mais aussi, comme le suggèrent les textes, une possible complémentarité. Combiner cette empathie brésilienne avec l'objectivité française.
Ce serait l'idéal peut-être. Mais est-ce que cette priorité donnée à la forme, ça ne freine pas parfois les choses, dans un contexte pro où il faut avancer vite ?
C'est un vrai défi bien sûr. Le risque de flou existe, mais l'idée soulevée, c'est plutôt comment tirer le meilleur des deux, comment intégrer cette sensibilité relationnelle sans perdre en clarté. C'est là que ça devient intéressant.
Un autre point important, c'est cette culture du consensus au Brésil. Ce fameux « depende », c'en est une illustration. On cherche à éviter la confrontation directe.
Oui, les sources citent même l'exemple de Lula, perçu comme un négociateur hors pair, toujours à chercher l'accord entre des positions opposées.
Tout à fait. Mais les textes montrent aussi les limites de cette approche. Le risque du consensus de façade, où tout le monde dit oui, mais personne n'est vraiment convaincu.
Ou le consensus par le bas, il y a cette anecdote du vote en copropriété.
Ah oui, où tout le monde finit par se rallier à la majorité apparente sans vraiment défendre son point de vue initial.
Ou l'ami qui vote pour celui qui va gagner, juste pour être dans le camp majoritaire. C'est assez différent de l'attitude française où...
Où on a un avis sur tout et on tient à l'exprimer, quitte à débattre fort.
Pour beaucoup de Brésiliens, selon ces textes, préserver l'harmonie du groupe, ça passe avant la vie technique, pure.
Et ça peut mener... comme le raconte une autre petite histoire sur un choix entre musique et restaurant, à ce que l'auteur appelle une sorte de dictature de la minorité.
Oui, on s'aligne sur celui qui semble le plus sensible ou le plus susceptible d'être froissé pour maintenir la paix.
C'est intéressant. Mais les textes nuancent quand même, non ?
Oui, ils précisent que ça vaut surtout dans des groupes assez homogènes. Et que la société brésilienne évolue, elle devient moins consensuelle. L'exemple des divisions récentes autour de Bolsonaro est mentionné. Il y a aussi une partie sur le regard critique que certains Brésiliens portent sur leur propre société. L'auteur des textes raconte sa surprise face à une consultante brésilienne qui décrit son pays de manière très directe. Hein ?
Oui, sans complaisance. Elle parle d'un pays de caste, inégalitaire, raciste, fermé. Assez loin de l'image d'Épinal, parfois.
Exactement. Ça remet en question ce mythe tenace de la démocratie raciale brésilienne. Une idée qui a longtemps été niée, on peut dire. Mais qui est de plus en plus débattu aujourd'hui, comme le soulignent les textes. Et on rappelle que le racisme, ce n'est pas seulement envers les Afro-Brésiliens, mais aussi les populations indigènes, les Nordestins.
Cette prise de conscience semble progresser donc ? Les textes évoquent aussi brièvement ce rapport un peu compliqué à l'héritage portugais.
Ah oui, le fameux « c'est la faute des Portugais » qui peut ressurgir.
Et ce que l'auteur appelle le complexe du corneau, ce sentiment d'infériorité qui peut alterner avec l'ufanisme, une fierté nationale un peu...
Un peu exagérée, oui. Une oscillation intéressante.
Bon, si on essaye de synthétiser un peu, on retient quoi de tout ça ? Surtout, ces différences de communication, cette importance du consensus au Brésil, avec ses forces et ses faiblesses.
Et puis ce regard plus lucide qui émerge au sein même de la société brésilienne sur ses propres défis, comme les inégalités ou le racisme.
Et toujours cette idée de complémentarité possible entre les approches françaises et brésiliennes, c'est ça qui revient souvent.
Tout à fait. Comprendre ces dynamiques, ce n'est pas juste une question d'adaptation passive, c'est pour pouvoir, comme le dit une des sources, interagir en prenant le meilleur de la culture des autres et en y amenant le meilleur de sa propre culture. C'est un échange, en fait.
Donc au final, on est loin des clichés simplistes. C'est une invitation à regarder de plus près la complexité de ces interactions humaines et culturelles.
Exactement. Et peut-être une dernière pensée, une question à laisser en suspens. Dans ce monde de plus en plus globalisé, comment est-ce que ces jeux subtils entre, disons, la franchise et la diplomatie, entre l'affirmation individuelle et la recherche d'harmonie collective, comment est-ce que tout ça façonne notre capacité à vraiment collaborer, à innover ensemble, bien au-delà d'un simple pont sur l'Oyapock, quoi.